Bonjour, c'est Nathalie David-Veil. Vous écoutez 4e de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes pour découvrir les dessous de la création. J'invite aujourd'hui Franck Maubert. Bonjour Franck Maubert.
Bonjour.
Vous avez écrit deux livres à peu près au même moment, Une odeur de sainteté au Mercure de France et Bacon, éclat d'une vie.
Chez Segers.
Chez Segers, exactement. Je vous présente, vous êtes essayiste et romancier français, rédacteur en chef de Globe à sa création, critique d'art à l'Express dans les années 80. Vous êtes aussi l'initiateur avec Thierry Ardisson de Bain de minuit et de Paris dernière. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la peinture, Le Paris de Lautrec en 2005 et à la chanson Gainsbourg Forever en 2005, La mélancolie de Nino. Plusieurs livres sur Bacon, dont celui dont on va parler aujourd'hui, Éclat d'une vie, un roman graphique avec des dessins de Stéphane Manel chez Segers. En 2012, vous êtes récompensé par le prix Renaudot pour l'essai Le dernier modèle. Vous avez été finaliste du prix Jean Frestier en 2019 pour L'eau qui passe en 2018. Et vous, on présente aussi Une odeur de sainteté où votre héroïne s'appelle Jeanne Doucet, née au service des grands parfumeurs. Elle est sollicitée par une étrange mission. Elle doit humer le cœur d'une sainte Émérance en vue d'une béatification. Face à cet organe sec dont se dégage un parfum indéfinissable, Jeanne est bouleversée, sa vie bascule, comme si l'esprit qu'il renfermait s'emparait d'elle. À travers les âges, elle perçoit une peine indicible et d'innombrables souffrances. Hantée par Émérance, assaillie de vision, elle voudra percer son secret. Et c'est bien son cœur qui la guide à travers les traces, à travers ce mystère, peut-être une part d'elle-même, elle cherche à découvrir, à retrouver, c'est entre le fantastique, le merveilleux. Vous commencez, ça m'a, comme j'ai lu en même temps votre Bacon, vous commencez votre livre sur Bacon, impossible de détourner des violences immobilisées de Bacon, elle vous happe au premier regard et ne cesse de vous hanter. Et vous ajoutez qu'il est impossible d'y échapper. Et je me suis dit que c'était un thème récurrent, cette emprise, le fait de se laisser posséder.
Je n'avais pas fait le lien, effectivement, donc je vous remercie d'avoir fait. Parce que, oui, enfin, c'est, bon, il y en a, c'est quand même une odeur de synthèse, il s'agit vraiment d'un roman, hein, donc un roman-roman. Et ce qui m'intéressait, oui, dans l'odeur de sainteté, c'est que c'est d'échapper, comme ça peut se passer dans la vie de chacun d'entre nous, d'échapper au réel. Par moments, il y a des événements qui surgissent dans votre vie et qui vous détournent de la réalité et vous partez dans un monde inconnu et vous vous laissez porter. C'était ce qui m'intéressait avec cette histoire de parfum, une odeur de sainteté et de cette femme, Jeanne Doucet, qui travaille pour un laboratoire de parfumeurs et qui est née et qui devient sous l'emprise, on va dire, pour prendre une expression très courante aujourd'hui, d'un autre parfum, du parfum de ce cœur qu'elle a humé, qui repose dans un reliquaire et qui a un siècle et demi à peu près. Donc, c'est comment le passé peut ressurgir à travers des odeurs et puis vous posséder et vous au point tel que vous partez à sa recherche, enfin la recherche de cette femme qui est sainte, donc enfin qui est future sainte, voilà.
On va écouter le début de votre livre Une odeur de sainteté, lu par Thibaut de Montalembert.
Je considère le monde comme une vaste réserve de parfums et d'odeurs. Je ne me souviens plus exactement des tout premiers, ceux d'avant les fleurs, des roses aux arômes si changeants, adossés à la treille des pierres chauffées au soleil, ceux des mousses humides des sous-bois, peut-être ce brûlé du caoutchouc d'un pneu mêlé à ceux du goudron chaud, ou encore ceux de la poudre des pétards lancés par des gamins de l'école. Mais bien avant, toute petite fille, la forte prégnance puante de mes propres excréments, miasmes innommables, m'avait profondément perturbé, même dégoûté. Il m'était impossible de vivre au rythme de cette putréfaction, de ce monologue intérieur obsédant. J'avais décidé de ne plus me nourrir. Il m'a fallu réapprendre à manger. Ma mère, fine cuisinière, s'en est chargée, s'y est appliquée. La laitue, fraîchement cueillie dans le jardin, les herbes, persil ou cerfeuil, plus tard l'ail qui pique les narines ou encore l'oignon cuit, m'y ont aidé. Peu à peu, j'ai apprécié les saveurs des aliments. Peu à peu, j'ai apprécié les saveurs des aliments. Celles de la rhubarbe, aux tiges marbrées de rouge, que ma mère faisait fondre avec une noix de beurre et du sucre, qui embaumait d'une légère amertume nos soirées de fin de printemps. Et toujours, quand ces arômes parviennent à mes narines, ils réveillent ma gourmandise. Il me suffit de plisser les yeux et les jours anciens apparaissent. Les senteurs tendres de la maison de pierre et son grand jardin plein de pluie ressurgissent. Comme il était plaisant, au mois de juin, de m'assoupir sous l'épais édredon des fleurs de tilleul. Sa douceur sucrée annonçait les jours tranquilles de l'été. J'avais une petite camarade avec qui je cabriolais dans les chaumes durant les vacances, insouciante et heureuse, et au temps des moissons, à l'exhalaison des champs de blé fraîchement coupés, de la chaleur des foins, j'associe le ravissement et peut-être le parfum de la félicité, celui d'une peau laiteuse et gratignée, de sang séché. La mémoire olfactive n'efface pas les jours enfouis, elle étire le temps, ravive les souvenirs, nourrit les légendes, fait rayonner en nous toute la vie. Les demeures ont leur senteur fidèle qui somnole quelque part dans un coin de la tête comme des gardiens de l'enfance. Nous vivions au bord d'une rivière, des remugles de vases remontaient, leur âcreté me semblait venir des profondeurs de la terre. Ils ne m'ont jamais quitté et je ne peux que les aimer. Les jours de chaleur, lorsque je marche sur les quais de la Seine comme aujourd'hui, quelque chose de sourd monte en moi, m'emporte et dilate mon cœur. Le monde des odeurs m'attirait à un point tel qu'il s'est imposé comme une vocation. Ce goût pour les parfums est devenu une passion, ma passion. J'en ai fait mon métier.
Merci Thibaut de Montalembert. Franck Maubert, une odeur de sainteté, c'est très intéressant votre personnage de nez, parce que tout passe évidemment à travers ce qu'elle sent, les gens, les lieux, c'est la trame de sa lecture de la vie.
Vous savez, au départ, je suis parti d'une histoire réelle. Un jour, je déjeunais avec une amie et à la fin de ce que je n'avais pas vu depuis un moment, et à la suite de ce déjeuner avec cette amie, je lui demande ce qu'elle doit faire et ce qu'elle fait après. Et donc, elle me dit, il m'arrive un truc très étrange. On m'a proposé d'aller humer le cœur qui repose dans un reliquaire d'une future sainte. Alors, j'étais très, très étonné. Je lui dis, mais pourquoi faire ? Elle me dit, pour déterminer l'odeur de sainteté. Alors, quand j'ai entendu ça, m'est venu tout de suite, je lui dis, mais tu devrais écrire un livre, alors qu'elle n'écrit pas du tout. Et puis, en lui disant, je lui dis, mais enfin, c'est à toi de l'écrire. Et je suis juste parti de ce fait-là. Et après, j'ai absolument tout inventé, bien sûr. Voilà. C'est là où c'est du romanesque. Voilà. Et il y a une part, effectivement, de fantastique, comme vous l'avez dit, et peut-être de mystique, sans entrer dans la religion elle-même, quoi.
Oui, mais là aussi, je me suis dit, ayant lu votre Bacon à peu près en même temps, avec ses représentations du pape, il y a comme ça, autour de vos deux livres, vous l'avez écrit en même temps ?
Non, j'écris qu'un seul livre en même temps, parce que, non, j'ai écrit, dans l'ordre, j'ai écrit d'abord Une odeur de sainteté, et puis j'ai écrit l'autre quelques mois après, oui. Oui, il y a 6 mois d'écart. Mais vous savez, il y a des choses qui nous traversent et puis incontrôlables. Et effectivement, on est habité par nous-mêmes par des choses. Et quand on écrit et on se laisse guider, en fait. Voilà, donc vous devez avoir raison, il doit y avoir des liens. Oui.
Vous aviez écrit avec Bacon chez Gallimard, vos
Oui.
souvenirs avec lui, et puis vos conversations avec lui qui s'appellent L'odeur du sang humain ne me quitte pas des yeux. D'abord, pouvez-vous expliquer ce titre qui est une citation d'Eschyle qui, là encore, parle d'odeur, n'est-ce pas?
Oui, je m'en suis rendu compte d'ailleurs après que j'avais deux titres avec le mot odeur. D'ailleurs, mon éditrice Isabelle Gallimard, elle trouvait ça étrange. Elle me dit, ah, le mot odeur, c'est pas très plaisant. Je dis oui, mais enfin, j'y tiens. Bon, bref, donc on a conservé ce titre. Mais oui, alors, l'odeur du sang humain ne quitte pas des yeux, qui est un vers très, oui, un vers d'Eschyle très, très violent, évidemment, et qui est en résonance d'ailleurs, hélas, avec les événements d'aujourd'hui, hein, on peut le dire. Parce que Bacon me disait toujours qu'il partait de vers, de poésie, très souvent, de poètes de Yeats, d'Eliot, ou d'Eschyle, ou d'autres Grecs d'ailleurs, ou de Shakespeare, et dans lesquels il était interpellé par des vers qui lui suscitaient des images, en fait, qui lui évoquaient des images. Et donc, il lui suffisait de quelques mots pour donner le déclic à ses toiles, en fait, hein, à un thème même. Voilà. Et ce vers est une traduction vraiment de Bacon lui-même, parce que j'ai cherché après des traductions en français, donc de ce vers d'Eschyle, et en fait, j'en ai pas trouvé qui était exactement celui-là, parce que par exemple, je trouvais une traduction de Le Comte de Lisle qui disait l'odeur du sang humain me sourit, pardon, ce qui n'a rien à voir, ça n'a rien à faire. Voilà.
Oui, vous parlez de mémoire olfactive dans votre roman. Vous dites les parfums ont ce pouvoir de tirer du sommeil une vie. J'avais appris que le mélange se fait dans la mémoire. Les odeurs vous embarquent, vous font rêver. Alors surgit le verbe. Donc la parole après l'odeur, alors que pour Bacon, ça serait la parole après, enfin la peinture après la parole. Et je me
Oui,
suis dit, là encore, il y avait un lien
des
ténu.
échos. Oui,
Comment?
c'est vrai. Mais vous êtes la première à faire le lien, mais ça m'amuse beaucoup, mais ça m'intéresse, oui, effectivement, effectivement. Mais c'est vrai que, vous savez, là, je vous parle, je suis en Touraine et au milieu de la nature. Et quand j'ai acheté cette maison il y a presque 30 ans, au bord d'une rivière, j'ai retrouvé les odeurs et les parfums d'une maison où j'ai habité petit enfant au bord d'une rivière. Vous voyez, donc, et inconsciemment, dès que j'ai vu cette maison au bord d'une rivière, j'ai ressenti les odeurs et les parfums. Et c'est peut-être ce qui m'a guidé, qui a guidé mon achat. Vous voyez, c'est très curieux, mais c'est ainsi, effectivement. Je suis très sensible aux odeurs, mais pas seulement, évidemment. Mais bon.
Franck Maubert, on va écouter votre premier choix musical, concerto de viol, de gambe, de marin, marais, Sainte-Colombe.
Thank you.
Franck Beaubert, Une odeur de sainteté, un roman au Mercure de France. Vous l'avez écrit très vite. On a l'impression qu'il y a un jet de plume. Alors, c'est peut-être beaucoup de travail.
Non, je l'ai écrit effectivement, je crois, en peut-être 2 mois ou quelque chose comme ça. Oui, j'avais. C'est-à-dire que quand cet ami dont je parlais tout à l'heure m'a raconté son histoire, enfin le début, je me suis mis tout de suite, j'étais en train d'écrire un autre roman plus ambitieux, j'allais dire plus épais et tout ça, que j'avais commencé. Je l'ai arrêté tout de suite et je me suis mis à écrire celui-là d'un trait, effectivement. Voilà.
Et le roman graphique chez Bacon est très intéressant parce que il y a cette biographie que vous faites, mais que vous faites à travers votre rencontre, c'est-à-dire que les dessins ne représentent pas les tableaux
Non, parce
de
que ça,
Bacon, ça
c'est
serait
pas une
un petit
bonne
peu,
idée, ça.
voilà, mais montre comment vous l'avez rencontré, l'hôtel où vous habitiez quand vous l'avez rencontré, le film que vous voyez qui vous avait obsédé, qui était Le Dernier Tango à Paris à ce moment-là. Et donc, c'est en fait vous, votre expérience de cette
Oui,
rencontre.
je chemine à travers sa biographie,
Et
oui,
les
effectivement.
dessins sont formidables.
Ben oui, c'est-à-dire que Stéphane Manel a réussi à faire une sorte d'œuvre parallèle, en fait, à celle de Bacon, ce qui n'était pas évident, parce qu'au début, quand il m'a proposé de faire ce livre, j'étais très inquiet, quoi, parce que déjà sur n'importe quel peintre, mais en plus Bacon, j'étais vraiment très, très inquiet. Et puis après, j'ai compris tout de suite qu'il allait en faire autre chose, quoi, une sorte, son récit à lui, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, il y a un dessin qui est formidable dans ce livre, qui est où on voit Bacon enlever la peau de son bras, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce dessin, mais et comme s'il se déshabillait de sa propre peau. Et c'est en fait, ça illustre une phrase de Gilles Deleuze qui parle de l'envers de la peinture, en fait, la viande, l'envers de la peinture, ou l'envers de la viande, je ne sais plus. Mais enfin, vous voyez, c'est ce côté de révéler des choses qu'on ne voit pas et qui sont, en fait, et c'est la révélation même du peintre, de l'intériorisation du peintre. Enfin, et ce dessin est assez fort et assez étonnant, quoi, voilà.
Et écrire pour la troisième fois sur Bacon, c'est bien, c'est trop, c'est...
Au départ, je ne voulais pas parce que je me suis dit, tu as déjà fait 2 livres, j'avais l'impression d'avoir tout raconté. Et puis quand il m'a proposé ça avec l'éditeur, je me suis dit, bon, j'ai accepté presque à reculons. Puis en fait, j'ai pris un très grand plaisir à l'écrire, en fait, parce que j'avais l'impression de me retrouver en compagnie de Bacon. Et comme c'est la personne la plus fascinante que j'ai rencontrée dans ma vie, j'avais l'impression qu'il était avec moi, qu'il m'accompagnait. Enfin, j'avais de retrouver tous les moments qu'on avait passés, etc. Et puis de réécrire sur lui, d'essayer toujours de fouiller dans son œuvre et de trouver des choses que j'avais pas spécialement pensé. Et puis de lire aussi d'autres ouvrages. Enfin, ça m'a éclairé. C'est-à-dire, quand on regarde la peinture de Bacon, ça vous atteint, ça atteint, comme il dit, le système nerveux, quoi. Donc, ça vous percute, quoi, ça vous électrise.
Vous parlez de cet hors du temps, vous en parlez chez Bacon, vous dites ces fonds monochromes sont une absence de repères, de drame, un temps éternel où la figure projetée dans cet espace peut capter l'attention et envoûter une mise hors du temps qui enferme ces personnages dans une lumière artificielle. Et je me suis dit que cette problématique du temps, on la retrouvait aussi dans, évidemment, votre sainte, puisqu'il n'y a rien
Là, il y
de...
a une collision de temps, en fait,
Oui,
hein.
voilà, il y a une collusion, exactement.
Oui, une collusion de temps. Alors, chez Bacon, c'est difficile de faire le lien. C'est vous qui m'avez lancé là-dessus. C'est pas facile comme exercice, mais non. Bacon disait que le mensonge permettait de dire plus, enfin d'exprimer plus de réalité. Et en fait, je pense qu'il a raison. C'est-à-dire que lui, ce qu'il appelle le mensonge, c'est des couleurs artificielles qui sont très fausses, quoi. C'est-à-dire, c'est rose, ces roses pinky, quoi. Enfin, et c'est orange. C'est des couleurs étranges pour mettre en scène ces personnages qui sont des scènes très souvent violentes. Donc, hein, on en a parlé. Et donc, c'est vrai que ça insiste sur le. Ça révèle le sujet, peut-être. Ça le met en lumière beaucoup plus que si on avait un décor classique d'une pièce normale. Voilà. Alors après, bon, je sais pas, la comparaison avec mon roman, là, je n'aurais pas quoi vous dire, mais.
Non, mais il y a une question de temporalité dans votre roman, puisque votre héroïne est à la recherche de.
Ben d'un personnage qui a existé un siècle et demi avant elle, oui, effectivement. Et en fait, ce qu'on trouve dans la vie d'aujourd'hui, enfin dans n'importe quel, c'est que quand on part à la recherche de quelque chose du passé, on finit par trouver, en fait, parce que mais même vous allez vous réfugier, ce qu'elle fait d'ailleurs, Émérence, pendant un moment, dans une église. D'ailleurs, c'est là où elle aura une révélation. Enfin, il y en aura plusieurs, mais ce sera peut-être l'ultime d'ailleurs. Mais quand on va dans une église, on est ailleurs, quoi. On est hors du temps. L'autre fois, dans la petite église de mon village, il y a les gisants des parents de Ronsard qui reposent. Et quand vous les regardez, vous êtes hors du temps. Vous voyez, alors. Bon, après vous sortez de l'église, bon, vous voyez des voitures d'aujourd'hui passer, c'est autre chose. Mais c'est en fait, il n'est pas trop difficile de s'échapper hors du temps. Alors, il n'y a pas que les monuments historiques, mais même la nature vous met hors du temps. Si vous êtes vraiment immergé au fond d'une forêt, on retrouve sans doute des sensations d'hier, hein, peut-être même sans remonter au temps pariétal. Bon, voilà.
Votre personnage d'Émérence que vous inventez m'intrigue assez. Je vous cite, j'ai rencontré un cœur qui ne s'accommode pas d'être un cœur qui a traversé toutes les douleurs, un cœur qui désormais appartient à ma vie. C'est comme si je me dédoublais. Et est-ce qu'un romancier ne se dédouble pas quand il parle d'un personnage, quand il
Ah oui, tout à
se
fait.
soustrait un petit peu de
Là,
notre.
on se dédouble, voire là, je me suis peut-être même détriplé, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, puisque j'étais à la fois Émérence et puis à la fois Jeanne Doucet.
Exactement.
Et c'est vrai que quand on écrit, on se met dans la peau de ces personnages. Oui, on se glisse dans. Oui, on se glisse dans la peau de tous ces personnages et en plus on les fait se rencontrer même en esprit simplement ou par le dialogue, on est les uns et les autres, oui. Et le temps n'existe plus en fait.
Vous avez préféré Émérence ou Jeanne, laquelle?
Peut-être Émérence, parce que c'était plus difficile. J'ai dû lui trouver en plus une manière d'écrire, puisqu'il y a des extraits. Enfin, je ne veux pas raconter l'histoire, mais puisque ce sera trop dévoilé de choses. Oui, j'ai dû lui inventer un langage qui lui était propre. Alors, comme c'est une jeune fille et qu'elle n'avait pas d'éducation, il faut inventer tout ça, quoi. Il faut inventer la manière dont elle s'exprime et puis ses ressentiments et puis comment elle se déplacer, etc., quoi. C'est ce qui est intéressant quand on écrit, parce que je trouve, enfin, il y a plusieurs choses, plusieurs niveaux, mais enfin, celui-là en est un, oui.
C'est intéressant aussi parce que j'ai relevé cette histoire de corps où elle dit, je sens son corps dans mon corps, j'ai l'impression qu'Émérence infuse en moi, qu'elle donne de l'épaisseur à ma vie. Qu'est-ce qui reste? Est-ce que c'est l'odeur? C'était quand même fascinant cette histoire de cœur, de sainte,
Oui.
apparemment vous dites que c'est tirée d'une histoire vraie.
Non, le point de départ, après, le point de départ. Non, non,
Pardon?
mais après, je sais pas du tout ce qui est arrivé dans la vraie vie de mon ami. Non, mais c'est effectivement, enfin, Jeanne Doucet qui sent, après avoir senti ce cœur, elle est habitée par ce parfum et c'est le parfum qui la guide, le parfum qu'elle a reniflé, humé, qui de ce reliquaire, de ce petit cœur qui est comme une noix sèche, comme un fruit sec, et ce parfum va venir l'habiter complètement et la posséder, oui, mais pas au sens diabolique, mais enfin, elle est guidée par ce parfum-là, et en fait, elle est sous, comment dire, ce parfum-là, oui, je sais pas, l'habite complètement, et c'est peut-être cet esprit, en fait, c'est l'esprit du parfum qui la guide, en fait. Et elle devient un peu Émérence, enfin, elle essaye de la comprendre. Et puis en même temps, c'est une révélation, effectivement, d'elle-même, parce que c'est une femme un peu perdue. Bon, on apprend qu'elle a divorcé, etc. Et donc, elle est seule et elle est un peu perdue dans la vie. Et donc, elle a besoin de se reconstruire. Et d'un seul coup, surgit Émérence, voilà, à travers ce parfum. Et donc, elle va à sa recherche.
Et chez Bacon, il est question aussi, évidemment, beaucoup de corps, puisque
Ah oui, c'est le sujet de Bacon, oui.
sujet, voilà. Et donc,
Et de chair, et de chair.
exactement.
Oui.
Donc, vous voyez, moi, j'ai trouvé
Ah,
beaucoup de...
bravo, non, mais là, je vous félicite parce que vous êtes la première. Pourtant, j'ai répondu à quelques questions depuis l'apparition de ces ouvrages, mais oui, c'est incroyable. Mais oui, ben ça, on ne s'en rend pas compte. Enfin,
Non, 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 c'est pour ça, c'est bien parce qu'on ne s'en rend pas compte que c'est tout à fait intéressant, bien que les livres n'ont effectivement
rien à voir, a priori.
rien à voir, mais je conseille réellement de lire les deux.
Ben, merci. Merci, merci. Non, mais ça m'amuse, parce que mais c'est toujours intéressant d'écouter les lecteurs parce que on apprend toujours des choses par les lecteurs que l'auteur ne voit pas. Enfin, on ne voit pas les choses, on ne voit pas.
Et ça vous a intéressé d'écrire avec quelqu'un qui fait les dessins? C'était une expérience.
C'est-à-dire que j'ai écrit tout seul dans mon coin, lui a fait ses dessins dans son coin, il est venu me voir 2 fois, on a passé 2 journées ensemble à mettre en place une sorte de chemin de fer, comme, vous voyez, et pour l'organisation des chapitres, etc. Moi, j'ai trouvé ce titre, Éclat d'une vie, parce que ça correspondait vraiment à Bacon, Éclat d'une vie. D'ailleurs, il y avait un miroir chez lui qui était complètement éclaté, un grand miroir concentrique comme ça. Et c'est l'image que je garde, ça lui correspond tout à fait, parce que lui m'avait dit, je vais poser la question, il m'avait dit que c'était un ami qui lui avait... enfin, ou lui ou l'ami, je ne sais plus, avait envoyé un cendrier dans ce miroir. Et donc, ça avait fait un cercle concentrique d'éclats comme ça, et ça correspond et à la vie de Bacon et à son œuvre en fait. Et c'est pour ça qu'Éclat d'une vie, c'est un titre qui lui correspond, quoi. Et puis, c'est des bribes de vie, c'est des fragments. C'est
Oui.
pas.
Est-ce que vous parlez aussi de ces rencontres, de ces
Oui.
lectures, de...
Oui. Et oui, parce que les rencontres, en fait, bon, il y a des rencontres évidemment avec les gens qui vous marquent et qui vous permettre d'avancer, et puis les grandes rencontres, et puis il y a les rencontres avec des œuvres, qu'elles soient picturales ou littéraires. C'est le cas de Bacon ben, en peinture avec Velázquez notamment, et Picasso, et puis en littérature avec des poètes, ceux que j'ai cités tout à l'heure, dont Shakespeare, dont Eliot, dont Conrad, etc.
Et vous, Franck Maubert, vos inspirations, ça serait littéraire ou musical pour écrire?
Musical, non, en fait, parce que j'étais embêté quand vous m'avez demandé de choisir, de faire des choix musicaux, mais en même temps, ça m'a intéressé. Puis, me sont apparues quelques musiques, effectivement, que je n'écoute jamais, mais que j'aurais envie d'écouter. Voilà. Donc, je les ai cherchées, et puis je les ai trouvées, j'en ai même trouvé d'autres, et ça m'amusait, parce qu'en fait, j'écoute très, très peu de musique. Ce que j'aime dans la musique, d'ailleurs, c'est ce qui apparaît pendant un moment dans Une odeur de sainteté. Quand Émérence se rend pour sentir ce cœur, elle entend une musique comme ça d'un instrument qui rappelle la voix humaine, et il s'agit évidemment de la viole, d'où ce morceau. Mais et j'aime entendre des morceaux par surprise, des morceaux de musique par surprise, sans avoir à chercher à mettre un disque, enfin, ou aujourd'hui Spotify ou je ne sais trop quoi. Donc j'aime la musique, mais par surprise, oui.
Franck Maubert, on va écouter votre. Vous aviez choisi Césaria et Vora, Petit Pays. Merci Franck Maubert de participer à mon émission. Vous avez écrit une odeur de sainteté au Mercure de France et Bacon, éclat d'une vie de Segers. Je ne pensais pas les mettre en commun quand j'ai commencé à les lire, mais c'est tout à fait intéressant de lire en même temps et parallèlement ce roman et un essai. Qu'est-ce que vous préférez écrire?
Ce que je préfère écrire, en fait, j'aime écrire et les choses me viennent naturellement. Bon, là, c'est vrai que ce bacon-là est presque une, enfin, c'est pas tout à fait une commande, c'est une demande plus qu'une commande que j'ai fait vraiment avec grand plaisir. Mais je me laisse guider par ce que j'ai envie d'écrire. Là, je viens de terminer un petit livre qui n'est ni un essai ni un roman, mais peut-être un récit, je ne sais pas, c'est un texte en tout cas, sur Pierre de Ronsard. Voilà. Ça
Ah,
s'appelle, comme j'avais fait avec Bacon, j'ai fait avec Pierre de Ronsard, parce que j'habite précisément, je suis dans le cadre là où il est né et là où il voulait être enterré. Je vois d'ailleurs en vous parlant par la fenêtre exactement la stèle qui désigne le lieu où il voulait être enterré. Vous voyez. Et je
d'accord.
me suis rendu compte que j'étais habité par Ronsard et par mon goût de la nature, sans, c'est ce qui m'avait attiré sans le savoir aussi. Vous voyez, c'est des choses qui apparaissent comme ça. Donc, je me dis pas, tiens, je vais écrire un roman ou un essai. Je passe de l'un à l'autre suivant mes envies, suivant ce qui vient, effectivement.
Vous citez en titre de chapitre Beckett, créer, c'est échouer,
Oui.
mais aussi Bacon qui dit le rôle de l'art, c'est d'essayer de tirer quelque chose du chaos de l'existence. Vous diriez quoi, Franck Maubert?
Bah, créer, c'est échouer, c'est certain. C'est-à-dire quand on écrit, bon, la peinture, moi je ne suis pas peintre, bien sûr, mais quand on crée quoi que ce soit, je pense que on doute énormément d'abord, et même une fois que c'est achevé. Et en fait, on parvient jamais à faire exactement ce qu'on désire faire. Le nombre de fois où j'ai une idée de livre et puis en l'écrivant à la fin, je suis très déçu par le résultat. C'est jamais ce que j'envisageais. C'est autre chose. Alors
C'est pour ça que vous
mieux.
avez le suivant.
C'est pour ça qu'il y a toujours un suivant, oui, absolument. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter. Enfin, moi, je ne peux pas. En tout cas, d'ailleurs, je pense que j'écris trop, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ainsi. Mais donc, oui, créer, c'est échouer, c'est sûr, oui, c'est certain. C'est pour
En
ça qu'on continue, oui.
attendant votre Ronsard, on va lire Une odeur de sainteté au Mercure de France, petit roman réellement original et captivant, et une biographie de Bacon, éclat d'une vie chez Segers. Merci beaucoup, Franck Maubert.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h. À la semaine prochaine.